Roland Barthes, dans la préface à votre bouquin, à votre Pétain, parle d'un cauchemar sinistre et glacé. Là, parlant de Pétain, est-ce qu'on parle d'aujourd'hui? Ou bien est-ce que c'est vraiment une époque révolue? Est-ce que toute ressemblance avec des dictateurs existants ou tentant à exister ou voulant exister est fortuite ou...
Écoutez, ça n'est certainement pas fortuite. La France a été majoritairement pétainiste en 1940. Jacques Duclos, responsable communiste, disait que si on avait fait un référendum en 40, 90% des gens auraient voté Pétain.
Et en 44?
Alors, ça n'est certainement pas le cas en 44. En 44, il y a eu bien de l'eau sous les ponts. Il y a eu notamment le STO, le travail obligatoire, qui a précipité dans le maquis beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas partir. Il y a eu effectivement les souffrances de l'occupation. Il y a eu la prise de conscience idéologique d'une partie d'opinion. Donc, en 44, certainement pas 90%. Mais c'est pour dire que Pétain a imposé un fascisme à la française. Un fascisme couleur de France. Alors, je sais bien que le mot fascisme, à propos de Pétain, il gêne, parce qu'on se dit, voilà, ça n'est pas exact. Alors très bien, est-ce qu'on veut parler de bonapartisme? Moi, je me fous des termes. Je considère que c'est une dictature à la française, qui a correspondu à notre époque, et c'est parfaitement vrai qu'il y a un style français du côté de la réaction, du côté de l'antiparlementarisme, du côté de l'antirépublicanisme, et c'est tout à fait d'actualité. Pétain n'est pas mort. Et aujourd'hui, sous d'autres formes, avec d'autres discours, on s'aperçoit de la persistance d'un certain nombre d'idées réactionnaires que Pétain a tout naturellement trouvé lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Je crois que c'est toujours important de comprendre que le pétainisme n'a pas été importé dans les fourgons allemands.
Ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est tout naturellement. Vous avez dit, c'est tout naturellement que. Et alors, effectivement, cette voix de Pétain est toute naturelle. C'est toujours le bon sens. Quand il dit moi-je avec mon expérience, à la campagne, mon cheval, mon machin. C'est le vieux grand-père qui dit des choses évidentes. Il est catholique. Bon, la France est catholique. Il aime le paysan, il aime la terre, il en fait l'éloge. Il est partisan de l'ordre, qui ne l'est pas. Il est l'ennemi du Front Populaire, mais ça, à l'époque, le Front Populaire s'est complètement discrédité. Vous indiquez comment Blum fait l'éloge de Pétain à un moment.
Ce qui est terrible, c'est que presque tout le monde, à un moment ou à un autre, a fait l'éloge de Pétain, notamment parce que il est supposé être l'artisan de la victoire de 14-18. On ne se rend plus compte de ce que ça représente aujourd'hui. Mais la popularité de Pétain dans les années 30 est considérable, y compris, évidemment, dans les rangs de la gauche. C'est la chambre du Front Populaire qui va porter finalement Pétain au pouvoir. Et donc c'est tout à fait exact de dire que Pétain s'est essentiellement appuyé sur des idées qui étaient supposées les idées du consensus sur le bon sens. Il est assez peu idéologique par rapport à d'autres dictateurs comme Hitler ou Mussolini. Il ramasse en se baissant un certain nombre d'idées qui traînent dans les rues, qui courent dans les champs et qui sont les idées que tout le monde peut se partager. Ce qui fait par exemple que la figure qu'il adopte, c'est celle du père de famille, il a saisi la posture de la seule autorité encore en place, donc d'une certaine façon d'une autorité incontestable pratiquement pour tout le monde.
Il est aussi le Christ, parce que c'est ce que vous dites, il est le Christ, il fait don de sa personne à la France, donc
ça,
il s'offre.
Ça c'est formidable, c'est un dictateur, il prend le pouvoir et il nous explique, il explique aux gens de l'époque, puisque je n'étais pas né, il explique que c'est par sacrifice qu'il accepte de prendre le pouvoir. C'est-à-dire que cet homme, s'identifiant certainement au Christ, puisque la grande phrase clé de son règne, c'est « je fais don à la France de ma personne », enfin bon, c'est cette personne qui va encombrer, occuper la France pendant pas mal d'années, et même après sa mort, puisque... On s'en souvient peut-être plus, mais des années après la mort de Pétain, la question de savoir où il serait enterré était encore d'actualité. On a volé un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, on a volé un jour le cercueil de Pétain, des gens d'extrême droite, qui souhaitaient que Pétain soit enterré au milieu des soldats qu'il avait conduits pendant la Grande Guerre, et non pas où est-ce qu'il est actuellement. Et donc ce corps n'a pas cessé d'encombrer, vivant ou mort, la France, et c'est vrai qu'il se met dans la posture de nous dire « regardez comme je me sacrifie, faites la même chose ». Un des mots clés du pétainisme, c'est le sacrifice, éloge du sacrifice. On ne se sacrifie jamais assez, on ne souffre jamais assez. Peu de discours politiques au XXe siècle ont autant fait l'éloge de la souffrance.